Pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Cello!
Vous pouvez vérifier sur le calendrier, mais nous sommes bien le mardi 5 mai 2026 et il est très précisément 14h passées de 4 minutes
quoi
à quoi l'horloge d'Ode Radio. Et oui, un petit problème technique.
Ah, la technique.
Et oui, a fait que nous sommes un petit peu en retard. Nous avons franchi un premier pont, celui du 1er mai. Le prochain sera celui du 8 mai, c'est-à-dire à la fin de la semaine. Et il y a des choses comme ça qui ne changent pas. Les ponts, les jours fériés, les fêtes religieuses et les commémorations de toutes sortes. Tiens, parmi les choses qui ne changent pas, j'ai deux beaux spécimens avec moi. Alors Jean-Jacques qui sait mais tout sur tout et quoi? Quand il ne sait pas, il invente. Bonjour Jean-Jacques.
Tu vois, il n'est pas changé.
Oui.
Bonjour Amélie, ça va?
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Et celui qui arrive à transformer le beau temps en cataclysme, en tornade, en ouragan, bonjour Patrick.
Oui, bonjour Amélie, bonjour Jean-Jacques. Vous avez vu le temps qu'il fait?
Incroyable.
Eh bien, c'est grâce à moi. Ouais,
bravo, merci. Alors si vous pouviez arrêter, ça serait sympa.
Non, au contraire, non, je m'amuse beaucoup en ce moment.
Oh, bah, ça ne m'étonne pas.
On est en retard, je vous rappelle.
Oui, allez, aujourd'hui, dans l'épisode numéro 25 de Ciné-Sans, nous allons retourner en 2018.
Cette année-là.
Et les actualités de 2018 s'ouvrent le 22 janvier, enfin ça a commencé avant, mais le 22 janvier avec le football qui rejoint la politique. En effet, l'ex-footballeur George Weah, ballon d'or, souvenez-vous, en 1995, prend ses fonctions de président de la République du Libéria.
Alors si lui, il arrive au pouvoir, il y en a une qui s'éclipse, c'est la Lune, le 31 janvier, une éclipse totale visible dans le Pacifique et une partie de l'Asie. Et alors, il s'agit aussi d'une super-lune qui provoque une baisse de la profondeur des canaux de Venise de 60 cm.
Non,
mais
c'est
pas
énorme.
Possible. Le 18 mars, Vladimir Poutine est élu pour la quatrième fois président de la Russie. Vous savez, Vladimir Poutine.
Ah, oui.
Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens.
Rappelez-moi l'année en 2018.
2018, oui, et il est jugé cette année.
Voilà. Il n'est pas changé. Alors le 23 mars, à Carcassonne et à Trèbes, moins marrant, le terroriste Redouane Lakhdim abat 4 personnes suite à son acte héroïque pour s'être volontairement proposé comme otage en échange de la libération d'une employée du supermarché de Trèbes, le colonel Arnaud Beltrame succombe à ses blessures. En 2024, l'otage qu'il a sauvé se confiait à France Info.
J'entends à la Wagbar. J'ai juste eu le temps de partir me cacher dans le bureau juste derrière. Il me trouve dans le bureau et là, il a posé son arme sur mon crâne, le couteau au niveau des côtes. Je suis restée figée. Il était content de lui. Bon, ben voilà, j'ai mon otage. Allez, sors de là. Je te ferai pas de mal. Viens, on appelle les flics. Je sentais le canon de l'arme qui tremblait sur mon crâne. J'avais très peur que le coup parte tout seul. Et je lui dis assez bêtement, fais attention, tu trembles, ne me tue pas sans faire exprès. On a entendu de l'autre côté des caisses vos gueules, les gars, reculez, je prends. Et il a commencé à s'avancer lentement, en engageant le dialogue avec le terroriste. Il a commencé à dire « la petite dame, elle n'y est pour rien, laisse-la repartir. Moi, je suis gendarme, je représente l'État, prends-moi à sa place. » J'ai trouvé qu'il choisissait très très bien ses mots, qu'il était très très bon négociateur. J'ai compris que c'était le moment pour moi de partir et j'ai commencé à avancer vers la porte de sortie. J'étais persuadée qu'il changerait d'avis. Qu'il me tirerait dans le dos. Le magasin est très silencieux, on dirait qu'il n'y a personne. Je me suis un petit peu avancée et j'ai entendu un bruissement. C'était une gendarme qui m'a appelée, qui était cachée dans les rayons et qui m'a appelée à la rejoindre. Oui, c'est lourd à porter. Il a pris ma place, non pas pour mourir, mais il a pris ma place parce qu'il avait plus de chances que moi de s'en sortir vivant. C'est quelque chose auquel je me raccroche beaucoup.
Les ouvriers de l'usine Perrin d'Agen protestent contre l'annonce de la fermeture annoncée par leur direction. Laurent Amedeo est le leader syndical à la tête de la contestation. Les ouvriers s'appuient sur un accord conclu 2 ans auparavant de maintien de l'emploi pour 5 ans en échange d'un allongement du temps de travail pour un salaire identique et d'un renoncement aux primes, tandis que la direction de l'entreprise, faisant partie du groupe allemand, invoque la rentabilité insuffisante de l'usine face à la concurrence, ainsi que les taux de marge trop faibles, les pressant de supprimer la production sans tarder.
En guerre n'est pas un film. C'est sa force et sa problématique. C'est sa réussite et l'inconfort du spectateur. En guerre est une immersion, c'est le réel. C'est une œuvre dérangeante, particulièrement lorsqu'on la regarde à Cannes, entourée de pingouins en smoking, et que notre inquiétude consiste à savoir si on arrivera à la sortie à choper la file d'attente du film d'action, de fiction suivant. Le film social et politique, comme on en fait plus peu en France, quand il s'agit de toucher le grand public. Dans la description du combat engagé sans doute, mais dans son traitement, quasi documentaire, et plus encore dans l'enfermement sur un thème unique, le combat des ouvriers dans leur entreprise, dont quand leur entreprise est menacée de fermeture définitive, l'évocation de ce combat est presque immédiatement en boucle d'une réunion à l'autre. Avec les mêmes arguments constamment répétés, énoncés, repris, hurlés, face au même discours, face au mur, on n'en sortira pas. Extrait.
Mais je sais que c'est pas forcément facile à comprendre, vu votre situation, mais un interventionnisme trop fort de l'État serait aussi contre-productif. Car ça risquerait... Je sais que c'est pas facile à entendre, vu votre situation, je le comprends. Mais ça serait envoyer un message négatif aux investisseurs, notamment aux investisseurs... étrangers, et on a besoin de ces investissements aussi pour créer de l'emploi dans notre pays. Ça, on en convient tous. Donc moi, je comprends encore une fois votre situation, et je sais que c'est pas facile à entendre, mais on peut pas faire du cas particulier de Perrin Industrie un cas global. Voilà.
Ce qu'on entend, c'est que, d'une part, vous nous dites qu'on peut pas intervenir auprès du tribunal, d'autre part, vous nous dites qu'une entreprise peut ouvrir et fermer quand elle le veut. Ils peuvent demander des aides de l'État, signer des accords avec nous, et quand même fermer l'usine quand ça les arrange. Donc, à un moment, concrètement, nous, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez rien pour nous.
Oui.
Pardon. Le réalisateur Sébastien Brisé est coutumier de ces films coup de poing. Rappelez-vous, La loi du marché en 2015, cette plongée dans l'univers d'un agent de sécurité chargé de surveiller ses propres collègues. Brisé a le chic pour nous mettre en face de nos responsabilités individuelles et collectives. Nos choix aux élections induisent bien la société dans laquelle nous vivons.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Vincent Lindon, Brisé a trouvé son acteur. Pas de doute. Il est formidable de détermination. Eh ben, il ne s'agit même pas de dire que Lindon est bon. Il est Laurent, tout entier livré dans la bataille jusqu'aux excès, jusqu'au point de non-retour. Toute cette écriture en gros blocs séquentiels, extrêmement dense, toujours dotée d'une direction, d'un trajet, d'un propos, aboutit paradoxalement à l'effacement de ses traces.
En guerre n'est donc plus un film, mais un pavé de réalité jeté à la gueule des festivaliers dont l'embarras est peut-être salutaire. Parce qu'il pousse à définir ce que l'on peut considérer comme une œuvre d'art, ce qu'on attend du cinéma, et parce qu'en agaçant le spectateur en nous, il inquiète le citoyen. De temps en temps, il y a un film, En guerre, où le tandem Brisé-Lindon essaie d'allumer pendant quelques minutes une petite flamme d'indignation en nous, entre 2 poignées de pop-corn et 2 gorgées de boissons gazeuses de type cola. Alors la bande originale, elle, est signée Bertrand Blessing, à qui l'on doit également The Key.
Oh my gosh. Oh my gosh. Blessing Project. And the MCAK. Rough representer. Rough, rough from the bassor. So, we got no defense, no man step on my sensor. Just in the nick of rhyme, to get down is the right time. Focus on the low, who's drawn from bows. Customaries in bad dress, shall consistent strike. Believe in practices, you're back in the days, yeah. Back in the days of the primitive man. So I got the plane to pass down the generation. Accept the law without no revolution. Stop the killing in the name of the nations.
leave the values of the life. It wasn't dropped the sound affair. I think we were prepared. That's the way to cool down. That rhymes cool. Wake up a death man just four. Proclame a production. Clear thinking, no illusion. Clear thinking, no illusion, disillusions. We got the key to push down the generation. Accept the law without no revolution. Stop the killing in the name of the nations. Leave the values of the life. We wasn't dropped the sound affair. I think we were prepared. That's the way to cool down. Not rhymes cool. Wake up a death man just for. Proclamer our production, clear thinking, no illusions, 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 illusions.
Allez, retour au calendrier 2018, des événements de 2018, et deux faits marquants au mois d'avril. Le 18, au Nicaragua, suite à la réforme des systèmes de retraite, des manifestations naissent et feront plus de 200 morts durant le deuxième trimestre.
D'accord.
Et le 23, à Toronto, le chauffard fou Alec Minassian abat 10 personnes. Alors le motif. Bah, a priori, c'est parce qu'il était resté célibataire.
On ne le sait pas encore, mais l'avenir nous dira que le 12 juin, la rencontre à Singapour entre le président des États-Unis et le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, ne mérite pas d'être qualifiée d'historique, comme l'a affirmé Donald Trump.
Oui, il affirme beaucoup de choses.
Oui, mais il dit beaucoup de choses à son contraire. Oui, ouais. C'est... Donc peut-être que c'est historique. Cocorico !
Oui.
Oui, le 17 juin, figurez-vous que l'équipe de France de rugby à 15 et moins de 20 ans remporte pour la première fois la Coupe du Monde U20 en battant qui ? En battant qui ? L'Angleterre, oui.
Albion.
Et auparavant, le 6 avril, ben, Jacques Higelin avait tiré sa révérence. Oui. Rappelons-nous.
Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. C'est trop peu, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu as tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que t'as pas. Tu sais même pas ce que t'as et c'est pour ça que tu m'en veux. Ça que tu m'en veux, ça que tu m'en veux, tu m'en veux, tu m'en veux. Tennis, je sens que je vais piquer ma tresse. Tennis, je sens que je vais piquer ma tresse. Tennis, je sens que je vais piquer ma tresse. Tennis, il faut que je te dise.
Je crois que tu vas beaucoup trop loin.
Je peux pas te donner ce que t'as pas quand je sais pas ce que tu veux. Je veux bien tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que j'ai pas. Je comprends même pas ce que t'as et c'est pour ça que je t'en veux. J'ai peut-être tout ce que t'as pas, mais comme t'as pas tout ce que je veux. Arrête ton cinéma pour toi et moi ça vaut mieux. Tennis, je sens que je vais piquer ma tresse. Tennis, je sens que je vais piquer ma tresse. Tennis, je sens que je vais piquer ma tresse. Tennis, il faut que je te dise.
Je crois que tu vas beaucoup trop loin.
Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux.
Green Book sur les routes du Sud, sorti le 16 novembre 2018, est un long métrage de Peter Farrelly. Une réalisation pour le moins étonnante, puisque Farrelly était d'ordinaire cantonné à des œuvres comiques, avec notamment Marie à tout prix. Green Book raconte l'histoire vraie d'un périple vécu par le pianiste noir Don Shirley et son chauffeur Tony Lip dans l'Amérique de la ségrégation.
Alors, vous voulez que je vous dise ce qui se passe, Annelise ?
Bah oui, c'est une très bonne idée.
L'histoire commence en 1962. Don Shirley s'apprête à partir en tournée jusqu'au Sud profond. Alors, afin de le conduire et de le protéger, il embauche Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx. Durant leur périple, il s'appuie sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur où l'on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine dont ils se guériront grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des différences insurmontables pour découvrir leur humanité commune. Bande-annonce.
Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler. Un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse ?
Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien, je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous ?
Les relations publiques.
Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir ?
Vous, dans le sud ? Ça va causer des problèmes. Dites pas que ça sent pas bon, ça.
Je n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence.
Même les gens comme vous adorent le poulet frit.
Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony.
Ouais, je sais. Je suis un malin.
Nous allons fréquenter les personnes les plus riches du pays. Alors je pense que vos manières gagneraient à être plus raffinées.
Oh, mais pourquoi vous me les voyez menus ?
Parce que vous valez mieux que ça, monsieur Valélon.
Tenez, mangez un bout.
Je préfère ne pas mettre de gras sur ma tenue.
Ouh, je veux pas mettre de gras sur ma tenue.
Ce monsieur dit que je ne peux pas dîner ici.
J'ai bien peur que non. Comment il fait pour rester aussi aimable ?
Il faut du courage pour changer le cœur des gens.
On ne gagne jamais grâce à la violence. On ne gagne qu'en gardant sa dignité.
Alors, le film emprunte son titre à un guide de voyage intitulé « The Negro Motorist Green Book », créé en 1936 par un postier afro-américain de New York. Oui, alors ce guide recensait les commerces et autres établissements qui acceptaient la clientèle noire. Il permettait à celle-ci de planifier son trajet pour éviter toute arrestation et toute violence. Et oui, l'abolition des lois ségrégationnistes en 64 a rendu obsolète le livre de Green, dont la publication s'est arrêtée en 66.
Alors, pour se glisser dans la peau de leurs personnages respectifs, Mahershala Ali et Viggo Mortensen ont eu chacun fort affaire. Mortensen a ainsi rencontré des membres de la famille Lip pour s'imprégner du Bronx. Et sur le plan physique, bah, figurez-vous qu'il a pris 20 kilos, se nourrissant principalement de pizza et de pâtes.
Parce qu'on oublie de dire, c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie.
Oui, tout à fait. De son côté, oui. Mahershala Ali confia à quel point il souhaitait incarner le pianiste, et pas seulement derrière son instrument. Il dit « Quand tu croises un danseur de ballet dans le métro, tu sais qu'il s'agit d'un danseur de ballet parce qu'il se tient comme un danseur de ballet. »
Alors, côté pile, Green Book sur les routes du Sud a obtenu 3 Oscars, meilleur film, meilleur scénario, meilleur scénario original d'ailleurs, et meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali. Et côté face, ça n'a pas visiblement mis tout le monde d'accord. Lors de la cérémonie, le cinéaste Spike Lee, excédé, quitta la salle. Plusieurs médias et de nombreux spectateurs ont condamné le choix du lauréat. En cause, selon eux, la simplicité de l'histoire, la persistance de l'image erronée du sauveur blanc, mais surtout le fait que le projet lauréat proposait, une fois de plus, le point de vue d'un blanc sur la vie d'un homme noir.
Alors on va retrouver le vrai Don Shirley dans l'interprétation du classique de jazz Stand By Me.
pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Mais bien sûr, sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
Mais en fait, il chantait pas, le monsieur.
Non, c'est un pianiste.
Ah d'accord, c'est pour ça qu'il chantait pas. D'accord. Heureusement qu'on avait Adlis quand même.
Oui, vous avez aimé mon interprétation.
J'ai adoré, c'était extraordinaire. On aurait dit la Reine des Neiges. Le mois de juillet 2018 est marqué par de nombreux et tragiques incendies, principalement aux États-Unis, en Suède, en Grèce et en Lettonie. Et le lendemain de la fête nationale française au stade Loujniki à Moscou, les Bleus remportent pour la deuxième fois la Coupe du Monde de football.
Oui, alors en revanche, mauvaise nouvelle provenant de Suède. Près du cercle polaire, le record local de température est battu avec 32,5 degrés.
Ah oui, ça craint quand même.
On s'est habitué depuis.
Ouais, oui, malheureusement. Oui. Et alors le 6 août, figurez-vous qu'une star de la gastronomie française s'éteint. En effet, Joël Robuchon, cuisinier français le plus étoilé du monde, disparaît emportant avec lui ses 32 étoiles, rien que ça.
En Indonésie, après les multiples séismes en juillet et août qui ont fait plus de 500 victimes, l'île des célèbres est frappé par un séisme et un tsunami qui font plus de 1900 morts. Et toujours au rayon de drame, comme cela ne suffisait pas, le 14 août, une catastrophe endeuille l'Italie. Un pont autoroutier s'effondre à Gênes, causant la mort de 43 personnes. En 2024, 6 ans après le drame, la douleur est toujours vive. Écoutez ces témoignages recueillis au micro de TF1.
Nous sommes en train de faire le dernier trajet que mon frère a fait. Ici, mon monde s'est écroulé et celui de ma mère aussi. Quand mon frère est mort, ou plutôt quand il a été tué, il avait 30 ans. C'était encore un enfant. Ce pont a été classé en 2013 comme étant à risque d'effondrement à cause des retards de travaux. Ces personnes qui sont accusées doivent toutes être condamnées.
En juillet 2018, nous avons contacté les services de l'autoroute pour leur raconter tout ce que nous subissions, notamment des morceaux de béton qui tombaient. Ils n'ont jamais voulu nous rencontrer.
Je vais vous dire, s'il fallait résumer 2018 sur l'année cinématographique, on peut dire que ce fut l'année des contrastes, dominée par les super-héros, mais aussi par quelques triomphes inattendus et des échecs spectaculaires. Mmh. 2018 restera donc comme une année paradoxale pour le cinéma. Une pluie de milliards au box-office, mais aussi quelques réveils brutaux pour Hollywood. Impossible donc de parler de cette année-là sans commencer par le rouleau compresseur Marvel. Oula. Avengers Infinity War a transformé la planète en salle de cinéma géante. Un événement mondial culminant de 10 ans de films connectés avec plus de 2 milliards de dollars de recettes mondiales. Eh oui, une machine parfaitement huilée menée par Robert John Downey Jr. et son armée de super-héros. Un événement cinématographique mondial.
Oui, mais Patrick, Marvel ne s'est pas arrêté là.
Ben non, certes non.
Quelques mois plus tôt, Black Panther dépassait 1,3 milliard de dollars de recettes. Ce film a créé un séisme culturel propulsant Chadwick Boseman au rang d'icône et prouvant. Blockbuster pouvait aussi être un phénomène de société. Bref, les franchises dominaient, mais 2018 a aussi rappelé qu'un film plus classique pouvait renverser la table. Tiens, prenez Bohemian Rhapsody, par exemple.
Ah bah oui.
Personne n'attendait un tel raz-de-marée. Et pourtant, la performance de Rami Malek en Freddie Mercury a conquis le monde entier. Un biopic musical devenu un triomphe populaire et critique.
Bah oui.
Et en France, me direz-vous.
Oui, et en France.
Eh bien, les Césars ont récompensé triplement le film de Xavier Legrand, Jusqu'à la garde, meilleur film, meilleur scénario originel et original et meilleure actrice pour Léa Drucker. Xavier Legrand fait de la guerre d'un couple pour la garde de son fils un thriller remarquable. La remise de son César était l'occasion pour Léa de rendre hommage aux femmes victimes de violences. Écoutez.
Je voudrais dédier cette récompense à toutes ces femmes qui ne sont pas dans une fiction, qui sont dans cette tragique réalité. Je pense à toutes celles qui sont parties, celles qui veulent partir, celles qui ne partiront pas, celles qui auraient dû partir. Je voudrais les remercier parce qu'elles m'ont permise en m'éveillant d'être la femme que je suis aujourd'hui. Merci infiniment.
Une autre surprise, tiens. A Star is Born. Une romance musicale, quatrième remake d'une vieille histoire hollywoodienne, et pourtant, la magie a opéré. Ben oui, le duo Lady Gaga-Bradley Cooper a bouleversé le public. Oui. Comme quoi, même les recettes connues peuvent émouvoir quand elles sont sincères. Nous avons même chanté Shallow avec Annelise, il n'y a pas longtemps de ça, vous vous souvenez?
Tout à fait.
Une jolie reprise qu'on avait fait tous les trois, c'était magnifique.
C'était assez incroyable.
Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, mais 2018 a aussi été l'année des chutes spectaculaires. Alors le cas le plus emblématique reste Solo, A Star Wars Story. Un film Star Wars qui échoue au box-office, impensable quelques années plus tôt. Le public semblait dire « trop de films, trop vite ». 390 millions de recettes pour un film coûtant plus de 250. Ah, un cri d'alarme pour Disney.
Même naufrage pour Mortal Engines, super production ambitieuse produite par Peter Jackson, univers original, budget colossal et salle désespérément vide. Et puis, il y a eu Robin Hood, nouvelle tentative de relancer une légende pourtant mille fois racontée, résultat, un échec critique et commercial quasi instantané.
Une nullité. Oui. Alors, je vais vous dire.
Oui, dites-nous.
Nous.
La leçon de 2018,
elle
est peut-être là.
Oui.
Oui, les spectateurs aiment les franchises, mais non, ils ne se déplacent plus automatiquement. Ils veulent des événements, pas des films obligatoires. Et au fond, c'est rassurant. Même à l'ère des super-héros, un biopic musical ou une histoire d'amour peuvent encore rivaliser avec les plus grandes sagas. 2018 n'a donc pas été seulement l'année des caps et des explosions. C'est aussi l'année où Hollywood a commencé à comprendre que le public restait imprévisible. Et franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le cinéma, non ?
Eh bien oui, oui, je suis bien d'accord avec vous. Alors parmi les chansons de l'année, figurez-vous qu'on retrouvait « Dommage » du duo toulousain, du stade toulousain, Big Flo et Oli.
Allez, le bébé.
Louis prend son bus. Comme tous les matins, il croisait cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'était la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Eh bien oui, c'est dingue. Et nous allons parler maintenant, une petite chronique, sur les films que nous pourrons voir à la télévision, affalés sur notre canapé.
Alors, il faut un canapé.
Si on a un canapé, oui, si on n'a pas de canapé, il faut aussi une télévision. Voilà, mais il faut qu'on aille vite.
Si vous n'avez pas de canapé, vous pouvez...
Vous pouvez aller au cinéma, mais ça, ça sera plus tard. Alors, qu'est-ce que nous avons comme film?
Je vous propose le mien.
Allez, proposez-vous le vôtre.
Alors, il faudra attendre lundi 11 mai. C'est-à-dire lundi prochain. Il faudra attendre 22h55.
Oh là, diantre.
Oui, mais c'est à cette heure-là qu'on doit regarder ce genre de film. C'est sur Ciné Plus Classique. Il s'agit du Procès, un film d'Orson Welles de 62.
Oh là, mon Dieu.
Alors, l'histoire, c'est celle de Joseph K., vous savez, un citoyen ordinaire, sans histoire, qui, un matin, est arrêté, sans connaître la raison, n'est-ce pas? Et il se retrouve pris dans le système judiciaire assez absurde. Il est innocent, et malgré ses efforts pour comprendre sa défense, il va être petit à petit écrasé par cette machine opaque jusqu'à une issue tragique. Voilà. Alors évidemment, vous l'avez compris, c'est l'adaptation du roman éponyme de Franz Kafka.
Paru
en 26. Et un film passionnant, en noir et blanc, évidemment. Et avec une distribution à la hauteur, puisqu'il y a Anthony Perkins qui joue Joseph K., Jeanne Moreau, Romy Schneider, Suzanne Flon, Orson Welles lui-même, et Michael Lonsdale qui joue un curé, je crois, un abbé. Voilà, un film à voir à
revoir. Quelle heure?
Alors, à 22h55 sur Ciné Plus Classique, lundi 11 mai.
Lundi 11 mai, vous dites. Mai. D'accord,
oui.
Très
vous
bien.
Vous avez noté?
Oui, j'ai noté. Oui.
Et vous, Patrick, vous avez quelque chose?
Alors, moi, j'ai quelque chose. Bah, alors, je vais vous faire un paquet cadeau. Parce que c'est un jour de grande bonté, un paquet cadeau. Je vais vous faire une saga. La saga du Seigneur des Anneaux. Qui commence jeudi 7 mai à 21h sur Canal Plus Grand Écran avec évidemment la communauté de l'Anneau.
Ouais.
Le 8 mai à 21h toujours sur Canal Plus Grand Écran avec les deux tours.
Bien sûr.
Et après le samedi 9 mai à 21h sur Canal Plus Grand Écran. Toujours avec le retour du roi.
Mais c'est incroyable,
n'est-ce pas? Alors donc, bien sûr, c'est la trilogie signée
non,
Peter
vous allez
Jackson.
Pas raconter le film.
Non. Adapté des romans de Tolkien, avec une pléiade d'acteurs de haut vol, voilà. Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Elijah Wood, Sol Austin, Ian McKellen, Christopher Lee, Orlando Bloom, voilà. Liv Tyler et Kate Blanchett.
Quelle heure?
C'est à 21h sur Canal Plus Grand Écran. C'est à revoir sans modération.
Oui, tout à fait, je suis d'accord.
Et vous, Anne-Lise, alors?
Eh bien, moi, on va s'arrêter le vendredi 8 mai à 21h sur France 4.
Non, on ne peut pas, on regarde Le Seigneur des Anneaux.
Eh bien, si, on va s'arrêter pour regarder un film du réalisateur sud-coréen Park Chung-wook qui s'appelle Decision to Live.
Yes.
C'est l'histoire d'un mystérieux crime qui met en émoi la police qui couvre une zone montagneuse isolée. L'enquête est confiée à Hae-jun, un inspecteur réputé. Très vite, ce dernier commence les interrogatoires et dès sa rencontre avec l'épouse du défunt, il doit faire face à des éléments très perturbants. Comme souvent avec Park Chan-wook, on est sur un vrai thriller avec des moments de suspense et un peu des interrogatoires.
D'accord, c'est parfait.
Voilà. Et donc c'est sur France 4, le 8 à 21h.
Bon, allez, on retourne.
Non, parfait.
On va rester en 2018, on va revenir aux événements qui se sont déroulés cette année-là. Et c'est le dernier trimestre. Hein. Le 5 octobre, le prix Nobel de la paix est attribué au gynécologue congolais Denis Mukwege et à l'ancienne esclave sexuelle du Daesh, Nadia Mourad, pour leur lutte contre l'utilisation des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Ça, c'était le 5 octobre, n'est-ce pas, Anne-Lise?
Oui, tout à fait. Fin octobre, les Brésiliens élisent l'ancien militaire et candidat d'extrême droite, Javier Bolsonaro, à la présidence du Brésil. En 2016, il déclarait « L'erreur de la dictature a été de torturer sans tuer ».
Bien sûr.
Mauvaise pioche.
Bah voyons. Et le 17 novembre, figurez-vous que des centaines de milliers de Français expriment leur colère contre une hausse de la taxe sur les produits énergétiques, en bloquant des routes et en organisant des manifestations d'envergure. Avec le mouvement des Gilets jaunes, dont on se souvient, Anne-Lise, hein, souvenez-vous. Les Français se révoltent face à leur président, forçant celui-ci et son gouvernement à reculer sur certains points.
Et alors, bien sûr, dans cette année 2018, certains artistes nous ont quittés.
Bah, la nécro, bien sûr.
Notamment Aretha Franklin et Charles Aznavour. Et
oui. Mm-hmm.
Au cinéma, ce sont les cinéastes Bernardo Bertolucci, Milos Forman et Claude Lanzmann. Et le 27 mars 2018, c'est l'actrice Stéphane Audran qui décède. Le jour même, Jean-Pierre Mocky s'exprimait sur elle.
C'était une femme de tête. Et elle avait beaucoup de personnalité et elle avait, vis-à-vis de Chabrol, une grande autorité. Et je me rappelle qu'un jour, elle a dit à Claude, si tu ne m'engages pas dans les films, eh ben je m'en vais. C'était très direct. Et c'était, elle aimait beaucoup Claude et ils ont fait un parcours pendant quelques années, puis ils se sont séparés. Et à partir de cette date-là, elle a changé de carrière. Elle a travaillé chez les uns et chez les autres, mais elle n'avait plus cette complicité qu'elle a eue pendant des années avec Claude. Quand elle a rencontré Chabrol, c'était l'époque de Chabrol au Cahier du cinéma. Et quand il y avait tous ces jeunes du Cahier du cinéma qui étaient là, de Godard en passant par Truffaut, Chabrol et tout ça, ils étaient tous plus ou moins amoureux de Stéphane. Parce qu'elle représentait pour eux une figure du cinéma. Elle avait un côté star américaine un peu.
Pupi est un film dramatique écrit et réalisé par Jeanne Henry. Sorti le 26 août. Il traite de l'accouchement sous X, de l'adoption, de l'aide sociale à l'enfance en France et met en scène plusieurs travailleurs sociaux dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes pour concourir à l'accompagnement d'un nourrisson entre sa naissance sous le secret et son adoption.
Adoption.
Oui. Vous allez redire à chaque fois. C'est une magnifique œuvre gracieuse et fragile comme le premier âge de cette vie qu'elle désigne de manière bouleversante. Dans une émotion délicate, constamment juste et forte, c'est l'histoire de deux destins croisés de pulsions. Une, celle d'avoir un enfant, l'autre de vivre. Deux êtres en attente l'un de l'autre.
Alors d'un côté, nous avons Alice Langlois. Élodie Bouchèze, une femme au parcours de vie douloureux entre l'impossibilité d'avoir un enfant avec son compagnon et leur rupture. Et de l'autre, ce petit être, Théo, que Clara vient de mettre au monde. Entre les deux, une armée de soignants, d'accompagnants, de familles d'accueil qui font leur possible pour que Théo et les enfants comme lui soient protégés et recueillis dans les meilleures conditions. La foultitude de personnages portés à l'écran sont tous attachants, car ils sont tous suffisamment traités, et ce, sans longueur ni pathos. L'équilibre est impeccable et en prime, tout le casting joue à merveille. Bande annonce.
Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mine et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ.
Bonjour, je suis assistante sociale.
Je veux pas le garder.
Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. Probablement demain, vous seriez dispo ?
Bonjour Théo, je m'appelle Karine, je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargé de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi.
Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo.
Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais.
Je me sens carrément prête.
Alors, construit comme un patchwork, le film présente divers plans en aller-retour chronologique, montrant par séquences juxtaposées les différents acteurs sociaux qui interviennent au cours du long et complexe processus d'adoption de l'accouchement sous X à la rencontre finale d'un bébé entre guillemets pupille officielle et sa rencontre avec sa mère adoptive.
Ah, c'est un film formidable, hein, mais il n'y a pas d'effets spéciaux, ni de musique envahissante, pas de scénario à rebondissement, ni de suspense. Non, non, rien de tout ça dans Pupille. Juste une caméra au plus près des humains qui jalonnent ces quelques mois déterminants. Gros plan sur des visages, des regards et des émotions, comme un hommage rendu à ses fonctions de l'ombre, soucieuses et responsables, professionnelles et fragiles, qui s'investissent sans compter pour que l'enfant né sous X puisse trouver le bonheur.
Le contre-emploi de Gilles Lellouche est parfaitement dirigé. Il nous livre une bien belle interprétation avec une retenue qui ne lui est pas familière. Mmh. Sandrine Kimberlin est fidèle à elle-même. Elle nous régale avec son humour décalé et son côté débonnaire. En prime, on redécouvre pourquoi on apprécie Élodie Bouchèze, qui n'avait pas eu de rôle consistant depuis un moment. Ce trio va vous humecter les yeux sans en avoir l'air. Mmh. L'humain et ses relations sont traités avec justesse et simplicité, ce qui donne une crédibilité et une sympathie à l'entièreté du film.
Et la musique du film est l'œuvre du compositeur Pascal Sangla.
Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça.
C'est vrai, ça, oui.
Eh bien, maintenant, nous allons parler des films qui sortent demain au cinéma, dans les salles de cinéma, que nous pourrons donc aller voir. Eh bien, c'est à vous, Jean-Jacques.
C'est à moi ?
Oui.
Alors, en ces temps un peu remuants, un peu crispés, tout ça, enfin voilà, quoi. J'ai choisi une comédie.
Ah !
Dont le titre est « C'est quoi l'amour ?» point d'interrogation. C'est une comédie de Fabien Gorgeard.
Oui.
Ben alors, c'est l'histoire d'un couple divorcé. Ils sont séparés depuis très longtemps. Et lui, il veut se refaire sa vie. Et il demande à son ex-épouse de faire annuler le mariage.
C'est Vincent McCain qui joue, c'est ça ?
Vous allez... Attendez un peu que je vous parle. C'est ma séquence, c'est pas la vôtre, bon sang. C'est
excusez-moi, Jean-Jacques.
Bon, je vais faire pareil, vous allez voir, méfiez-vous. Et donc, il demande à son ex-femme Marguerite de faire annuler le mariage, ce qu'elle accepte avec joie. Sauf que ce qui devait se passer était une simple formalité, mais ça va s'avérer plus compliqué. Et tout le monde va se retrouver à Rome, y compris les enfants, avec des familles recomposées. Voilà. C'est avec Laure Calamy, avec un acteur que quelqu'un vient de citer, et avec Mélanie Thierry. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est quoi l'amour, Annelise ?
C'est une bonne question.
Non, Annelise, c'est à vous.
Eh bien, moi, ça va être un autre film qui est un film mexicain qui s'appelle Cosmos de Germinal Rao.
D'accord.
Dans un village oublié du Yucatan, Léon, gardien maya des secrets de la nature et des esprits, va être chassé de ses terres. Son chemin croise celui de Lena, riche femme de lettres récemment arrivée à Mexico. Mmh. Malgré leurs différences, une connexion profonde se forme entre eux. On parlait de l'amour, on y est aussi là-dessus. Sur un conte un peu entre montagne, un peu entre deux mondes qui se croisent.
Tequila, tacos.
Voilà, tequila, tacos et Mexique.
Ouais, très bien.
Mezcal.
en quelque sorte.
C'est tout ce que vous avez dit.
C'est tout.
C'est tout c'est ce que déjà bien. Dire, ce qui est déjà bien.
C'est déjà un très très.
Ça s'appelle Cosmos, Cosmos de Germinal Rao.
Très bien. Eh bien, et moi, j'en avais deux et je vais en choisir un.
Alors, je vais donner tous les comédiens qui jouent dans le film.
Alors, ça, si vous les trouvez, je vous tire mon chapeau.
Vous, je vous taquine.
Alors, c'est un film de Reb Kérissi.
Oui, je sais ça.
Vous savez, alors c'est un film avec Alexandra Labi, François Cluzet et Mithy Avanavicius.
Oui.
Et ça s'appelle Pour le plaisir.
Oui, c'est exactement un film que j'irai pas voir.
Ça parce que vous ne souciez pas de ce problème-là.
Et
si l'on vous racontait l'invention du siècle, figurez-vous. Mm-hmm. Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans, mais un jour, un secret éclate. Fanny n'a jamais eu d'orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux, créer un objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu'émouvante et qui va transformer leur couple. Et jusqu'où iront-ils ? Eh bien, loin. Très, très loin.
Ah, d'accord. Bon,
si, ça prouve, enfin, c'est une comédie, hein, donc, oui. Voilà, on va pas inventer l'eau chaude.
Mais je préfère la mienne.
Mais vous préférez la vôtre. Ouais. Ça, c'est votre problème. Voilà. Mais voilà, donc,
merci,
il faut qu'on accélère.
Patrick. Oui. Ben voilà, mais moi c'est oui, d'accord. Bon.
Oui, bah oui, c'est ce qui paraît. J'ai perdu ma page, je sais plus où j'en suis.
Alors c'est page 7.
Oui.
Ah oui, voilà. Merci.
Voilà, ça sent la fin. Pas pour vous, mais pour l'émission.
Pour moi.
Oui.
Eh bien voilà, Cinéscence est fini.
Oui, voilà.
Tété pour aujourd'hui, puisque rien n'est éternel, puisque le temps qui passe nous oblige à regarder l'horloge. Nous allons préparer un bon petit week-end du 8 mai. On va charger la voiture, préparer le canot pneumatique, les toiles de tente, des duvets et le réchaud et le caouet. Nous allons partir à l'aventure, descendre les rivières en caouet et pêcher des poissons que nous ferons frire au feu de bois. Ou à la plancha.
Vous avez oublié les tongs. Hein,
et c'est vrai. Et nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, le mardi
ouais.
prochain, pour un épisode consacré à découvrir un homme et une femme qui ont fait les beaux jours du cinéma.
Eh bien, figurez-vous que ce sera à 14h sur Audio Radio 91.3, bien entendu.
Comme d'habitude, avant de nous quitter, laissons Jean-Jacques nous charmer les oreilles avec sa chanson « Père me dénicher, on ne sait où ».
Ou alors là, charmer les oreilles avec ce que vous allez écouter.
Tout, 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 tout.
En octobre 1969, le groupe de rock britannique Led Zeppelin sortait sa chanson « Wall of Love ». Beaucoup d'amour en français, n'est-ce pas ? Chanson la plus érotique enregistrée par le groupe.
Oh.
En 2018, notre année d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le chanteur, auteur, compositeur et musicien ivoirien Alpha Blondy en donnait sa version reggae.
Allez, à mardi prochain et voilà. En attendant,
bon vent à tous.